RMC.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti à 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'After. On est ensemble jusqu'à minuit, deux heures de bonheur avec Ali Benarbia. Bonsoir Ali Benarbia, ils sont disciples ce soir, sachez-le.
Bonjour, bonjour, bonjour.
C'est quoi ce bonjour?
Il a t'as gagné
c'est
un pari.
Bonjour. Ok, pourquoi pas.
Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Je peux faire comme lui? Je
non, François Malardo.
Non, c'est il vaut mieux pas faire.
Et qu'on écoute pas ta blague.
Bonsoir les amis. Voilà. Ça va bien, on est samedi soir. Je suis content de vous voir.
Ah là, surtout après la vanne que tu viens de nous raconter, qu'on n'a pas le droit de raconter. À l'antenne. On est en direct sur RMC, vous le savez. On est en direct sur BFM Sport également. On est en direct, bien entendu, sur l'appli RMC aussi et sur le compte et sur le site internet rmcsport.fr. Juste petite info pour demain. Sachez que c'est vrai que dimanche soir c'est spécial Macron à partir de 19h45 jusqu'à minuit sur RMC. Alors pour les fans du foot, on diffusera le match PSG Monaco. Si Paris gagne, Paris sera champion de France demain. Le match sera accessible et RMC sera accessible via le player rmcsport.fr et à travers l'application RMC Sport de 19h45 à 20h50, l'avant-match sera diffusé simultanément sur BFM Sport et sur nos supports digitaux. De 20h50 à 23h, donc pendant le match, le commentaire sera uniquement en audio sur rmcsport.fr et sur l'appli RMC Sport. Et l'after, à partir de 23h, basculera simultanément sur BFM Sport et sur ces mêmes supports digitaux. Voilà, au moins c'est clair. Et demain, on n'est pas sur la radio, on sera en mode numérique et sur BFM Sport aussi. Voilà.
Ben oui, c'est bien et tu l'as bien résumé. Bravo, bravo monsieur Villas.
Ça n'a pas été évident, je ne vous le cache pas, messieurs. Les résultats de ce soir. 33e journée de Ligue 1, la suite de cette journée. Lyon s'est imposé 3-0 face à Amiens cet après-midi. De partout, alors match vraiment dramatique entre Lille et Guingamp. Lille qui menait 2-0 jusqu'à la 90e et dans le temps additionnel, les Guingampais sont revenus à 2-2. Saint-Etienne est allé s'imposer 1-0 à Strasbourg et Saint-Et enchaîne. Un partout entre Nantes et Dijon. Et victoire, ça c'est une surprise aussi, de Metz à Rennes, 2-1. Les Rennais qui avaient un vrai coup à jouer. Les Rennais qui auraient pu être seuls 5e ce soir, eh bien, sont 5e à égalité avec Nice qui n'a pas encore joué. Avec 47 points.
Nice c'est fait, hein. C'était hier soir.
Ah oui, c'était hier, exactement. Match nul, un but partout face à Angers. Et il m'a pas marqué ce match.
Tu connais mieux tes fiches sur la diffusion du match PSG Monaco demain que ce qui s'est passé.
Je crois que j'étais là avec toi hier en plus.
Ça, c'est pas gentil.
C'est vrai que c'est méchant. Ah, oui. Alors, cela dit, Saint-Etienne, avec le succès de ce soir, Saint-Etienne est 8e au classement avec 46 points. Ils sont à 1 point de la 5e place, les Verts, hein, ce soir. C'est fou quand même.
La régie,
encore un but.
Vous pouvez mettre le classement pour aider Nicolas, s'il vous plaît.
Il est extraordinaire, hein. Je sais pas ce que c'est l'air du Forez là, mais Debuchy, c'est.
L'enquête, ça veut rien dire, mon pote.
L'enquête but sur but.
Le bas de tableau, je vous le donne également. Metz est dernier avec 25 points. Mais alors attendez, Metz, ils étaient à la rue totale, hein, au classement. Ils ont 4 points de retard seulement sur Lille, qui est avant-dernier. Lille qui est à égalité de points avec 3, qui est barragiste. Et on a Toulouse qui jouera demain, qui est 17e avec 30 points. Strasbourg n'a que 4 points d'avance sur Toulouse. Hein.
La régie, pour aider Nico, le classement.
Ah non, je l'ai là, le classement. C'est pas...
Mais d'habitude, ils le mettent.
Ouais, ils vont le mettre. Ouais.
Bon, voilà, d'accord. Voilà. On dira monsieur Laurent Fallard.
Il va arriver. Pourquoi Laurent Fallard? Rien à voir avec ça.
Non.
C'est le community manager qu'on embrasse, bien évidemment. Oui, voilà. Petit résultat de Ligue 2 également. Reims prend le chemin de la Ligue 1. Victoire 3-0 face au PFC cet après-midi. Le Bayern a cartonné Gladbach 5-1. Et sachez que ça joue en ce moment sur SFR Sport en première ligue entre Tottenham et Manchester City. 2-1 pour les Citizens. On sera tout à l'heure avec Philippe Auclair, hein, pour revenir sur les matchs de cette journée en Angleterre. On sera avec Fred Hermel également pour revenir sur le 2-2 entre Séville et Villarreal et sur la victoire du Barça face à Valence, les Barcelonais qui ont atteint un record aujourd'hui, messieurs.
Qui est de
39 matchs en défaite, c'est un record, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de la Liga. Voilà. C'est dingue, hein, quand même. On va débuter par Rennes, les gars. Rennes qui s'est incliné 2-1 face à Metz, mais avant, ouais, j'allais oublier.
Contre Toulouse, également... non, on va faire un résumé.
Non, puisque le match a été reporté, tiens, tu fais pour le dire. Match est reporté pour...
Et on attend la date, parce que quand on va jouer la demi-finale de Coupe de France...
Cause d'un oui, c'est vrai.
C'est un peu compliqué, du
donc
coup,
c'est
pour
la date ultérieure, effectivement. Je vous le disais, match de Première Ligue, hein, ce soir, entre Tottenham et Manchester City, match qui est en train de suivre. Lucas Vinoy, t'es là, mon Lucas?
Ben, bien sûr que je suis là, je vous attends.
Lucas.
Salut Wed, 63e, on joue la 63e minute alors que le Roi Sané est en train de sortir. Ça fait 2-1 pour les Citizens face à Tottenham, une domination totale en première période, 2-0 au bout de 40 minutes, et puis finalement un but un petit peu contre le cours du jeu de Christian Eriksen. Ça fait donc 2-1, tout est encore possible dans ce match, mais pour l'instant en tout cas avec cette victoire qui se dessine pour Manchester City, on pourrait, en cas de faux pas et en cas de défaite de Manchester United demain contre la Lanterne Rouge West Bromwich Albion, avoir City champion d'Angleterre à l'issue de cette journée.
Merci Lucas. Il y a également du rugby ce soir, affiche du top 14 entre le Loup et le Stade Français. Laurent Depré, bonsoir Laurent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir messieurs. Écoute, messieurs. Il n'y a pas de suspense pour ce match de la 24e journée. C'est le Loup, le mieux classé, 7e, 61 points, qui mène facilement 32 à 3, 4 essais à 0 face aux Parisiens, qui eux sont à la 12e place et vont y rester. Il reste 23 minutes et demie à jouer dans cette deuxième période ici, où le Loup mène très facilement, 32 à 3, face à un Stade Français qui a un peu la tête ailleurs.
Merci beaucoup Laurent. Nous, on va dérouler donc le fil de ce samedi de football, à débuter par la Ligue 1. Rennes avait un vrai coup à jouer, on le disait, au classement, 4 succès. Les Bretons auraient pu être seuls 5e. Oui, mais voilà, Rennes a perdu face à la Lanterne Rouge. Rennes qui menait 1-0 après le but de Bourigeaud à la 27e. Et alors, ce diable de Nolan Roux, qui décidément réalise la meilleure saison de sa carrière statistiquement, a claqué un doublé en 5 minutes en seconde période. Et Metz s'est donc imposé 2-1. Il en a à 15 pions, hein, toute compète confondue, Nolan Roux, cette saison. Elle est étonnante, hein, cette victoire. Et elle est presque même caricaturale. À chaque fois que Rennes peut franchir une étape, on a l'impression qu'il s'écroule.
Non mais là... c'est la tête, hein. Tiens, le geste d'Allegri sur le troisième but mercredi soir, celui de la Juve, où il leur fait la tête, la tête. Bah, c'est la tête. Hein. De toute façon, il n'y a pas que Rennes d'ailleurs. Hein. Lille aussi, hein, c'est la tête, hein, mes amis. Hein. Mais moi, j'ai pas été étonné. J'ai pas vu le 20e de Ligue 1 jouer ce soir face à Rennes. Hein. J'ai vu une équipe assez fringante qui avait pas trop peur pour une Lanterne Rouge et qui a commencé à bousculer les Rennais. Le but de Bourigeaud, pardon, il est pas contre le cours du jeu parce que Rennes avait des atouts et il les a mis en marche en quelque sorte. Mais je me disais, cette équipe Messine, elle peut les emmerder ce soir. Et puis bon, finalement, je me suis pas trompé.
Ah bah oui, tu t'es pas planté là. Allez.
Cette équipe de Rennes, on le sait, elle est fragile. Quand c'est pas au milieu de terrain, c'est en défense, mais surtout en défense. Tu prends deux buts exactement de la même façon. Centre deuxième poteau et les deux latéraux ou le latéral qui est au deuxième poteau, c'est pas qu'il fait pas le travail, c'est qu'il ne défend pas, c'est qu'il ne passe pas entre le gardien et l'attaquant. Et Nolan Roux deux fois fait la même chose. Et ça, par contre, quand une équipe veut jouer la cinquième place pour l'Europe, t'as pas le droit défensivement. Que tu prennes un but exceptionnel, magnifique, en dehors des 18 mètres ou une reprise de volée, je suis d'accord. Mais un centre au deuxième poteau où tu laisses l'attaquant qui plus est l'avant-centre Nolan Roux, qui est plus ou moins le seul joueur de cette équipe qui peut finir les actions, tu le laisses deux fois marquer, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de la défense, au niveau des phases défensives, à l'agressivité. Et quand une équipe, elle veut ne pas encaisser de buts et elle veut marquer pour gagner, c'est pas cette attitude qu'elle doit avoir.
Mais c'est une attitude qui est symptomatique peut-être d'une équipe qui menant 1-0 à la mi-temps contre le dernier de Ligue 1, parce qu'ils ont ça en tête, hein.
C'est terminé.
Ils se disent que bon, allez, ils vont dérouler parce qu'ils font des matchs intéressants, dont le contenu est intéressant, ils sont bien organisés, ça joue assez bien au ballon, et puis bah, t'oublies que jouer bien au ballon, c'est une chose. Les duels, répondre dans, voilà, la concentration, la rigueur.
Ils étaient sur une série du match en défaite, hein, aussi. Hein.
Ouais. Tout le monde est dans une bonne dynamique, à chaque fois.
Mais la meilleure dynamique, c'est les Verts qui l'ont, hein.
Ouais. Oui, ça c'est bah 11 matchs sans défaite.
Hein, meilleur, c'est
le tiens, une réaction sur le hashtag RMC Live, vous le savez, vous réagissez en direct, hein, sur le hashtag RMC Live en direct pendant l'émission. Il y a Nel qui nous dit, tu peux franchir une étape et tu te vautres. Il y a du Bordeaux dans le Rennes de ce soir, nous dit Nel.
Oui, il y a du Rennes dans le Rennes de ce soir. Pourquoi du Bordeaux, forcément?
Il y a peut-être d'ailleurs du Rennes dans le Bordeaux dans ce moment.
Je vais m'arrêter là pour te suivre. Non, mais c'est ce que disait un peu Ali. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est du Rennes tout court.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'au moment où il faut un peu. Enfin, tuer le match. Le match nul de Nice hier, alors que Nice mène au score contre Angers, le match nul doit donner à Rennes le sentiment très fort de, ok, c'est la Lanterne Rouge, il faut faire gaffe.
C'est un autre jeu.
Mais si on fait, si physiquement on répond après, on est meilleur techniquement. Donc une fois que t'as répondu à l'aspect physique, après ta technique doit te permettre, après, pas avant. Donc ils se sont vus un peu trop beaux.
Mais ce qu'ils ont fait Saint-Etienne en fait, c'est qu'ils ont de l'assurance dans cette défense et devant la défense. Après il manquait de l'ingrédient offensivement, c'est ce qui s'est passé. Le problème de Rennes, l'assurance, tu ne l'as pas. Défense devant la défense, tu ne l'as pas. Tu suis le rythme et les vagues. mais tu ne l'as pas en fait.
On va accueillir Benjamin, supporter du Stade Rennais qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Benjamin.
Salut messieurs.
Salut Benjamin. Bon Benjamin, t'es résigné ou t'es dégoûté? T'es comment ce soir?
Un peu inexplicable cette défaite, clairement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vous rejoins tous les trois sur ce qu'on a dit précédemment. En un, déjà, féliciter Metz, évidemment, parce qu'on n'a pas vu le 20e de Ligue 1. Ce qui a été dit, c'est pas du tout une équipe qui est résignée. Et vraiment, ils ont, avec Dosevi et puis Roux, ils ont deux très bons joueurs. Et puis voilà, très solidaires. Ils ont bien défendu et pas seulement défendu. Donc voilà, bravo à eux. En ce qui concerne Rennes, ben, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont un peu dures à dire, mais Romain Danvé, qui est le capitaine historique, qui est là depuis 10 ans, etc., qui était présent aux trois finales qui ont été perdues avec Rennes. Il y a beaucoup de supporters, même si on peut avoir de l'affection pour lui, qui pensent que le jour où il sera plus là, c'est le jour où Rennes ira mieux. Ça peut paraître très dur dit comme ça parce que la défaite est, voilà, c'est une défaite d'équipe. Mais les deux buts sont pour lui. Hein. Clairement, moi, je rejoins Ali par rapport à ça sur l'absence de marquage. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il reste 5 matchs à Rennes. On a encore quand même le destin entre nos mains ou nos pieds. On a 1,5 point d'avance sur Saint-Etienne par rapport au collabérage. Aujourd'hui, on va avoir un déplacement à Nantes qui va être stressant, super attendu. Déjà, c'est un derby, donc c'était forcément attendu, mais là, c'est encore plus attendu vendredi prochain. Donc voilà, défaite inexplicable. Moi, je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai encore envie d'y croire sur le fait que Nice ne gagne pas hier, que Nantes ne gagne pas. Bon, il y a Saint-Etienne qui prend les points, mais on est encore cinquième, on a encore 3 matchs à domicile. Je pense que Rennes s'est vu trop beau avant.
Ça dépend si t'as 3 matchs à domicile, mais que tu perds chez toi contre Metz.
Ouais. Mais je pense que l'erreur, tu l'as fait une fois, mais pas deux. Et je compte sur l'entraîneur, notamment, pour expliquer que, voilà, il y a eu, comment dire, dans la semaine, ça fait une ou deux semaines, on parle beaucoup même du match contre Monaco, où Rennes a fait un très bon match, etc. Et justifié à juste titre. Je pense que Rennes, en fond de jeu, quand ils s'appliquent comme ils ont fait dans la première demi-heure, peut légitimement être cinquième. Mais voilà, je rejoins vachement François sur le fait que c'est d'abord l'implication, c'est d'abord l'aspect physique,
c'est d'abord le mental.
Et puis sur le terrain, l'engagement, c'est pas un marquage de 3 mètres.
Exactement.
Ensuite, comme vous l'avez dit, Bourigeau, Cavry, il y a plusieurs joueurs qui techniquement feront la différence. Mais il y a des ingrédients de base. Ça sert à rien de mettre du sel et du poivre si t'as pas fait cuire la viande. Et
voilà, c'est beau, ça, Benjamin. Benjamin, nous, les métaphores culinaires, on adore.
Quel vinaigrette. Donc, voilà.
Mais par contre, je vais passer un petit coup de gueule. Ça vous dérange pas?
Ah, vas-y.
Ça dépend, parce que les coups de gueule rennais, c'est gentil. Alors, vas-y, on
commence pas le souci.
C'est contre la Ligue. En fait, on nous a programmé un match d'entraîne, un derby qui est quand même hyper attendu dans l'Ouest. On a deux équipes qui sont potentiellement européenne, etc. Donc c'est vraiment un match qui est super attendu, qui peut être très sympa. En plus, Nantes pète ses 75 ans, etc. Et on nous a foutu le match un vendredi à 19h.
Ouais, ça, c'est pas bon.
On n'est pas capable de s'organiser, d'une part, et qu'en plus, le diffuseur télé préfère diffuser Dijon-Lyon un vendredi à 20h45. Que n'entraîne. Donc là,
alors,
c'est
juste une chose, Benjamin, c'est pas la Ligue, hein, c'est le diffuseur.
Ouais, souvent il y a des accords.
Il y a les deux, François. Il y a les deux, parce qu'en fait, au départ,
la pression vient du diffuseur dans ces cas.
Alors, pour te dire, il y a les deux.
C'est le diffuseur qui paye, hein, Benjamin.
En fait, d'une part, là, au départ, c'est la préfecture qui a demandé à ce que le match soit diffusé, soit mis vendredi, parce qu'au niveau des forces de police, il y a des événements à Nantes dans le week-end qui font que la préfecture disait on peut le mettre que le vendredi. Et ensuite, il y a le diffuseur télé qui a dit. Non, nous, vendredi, on veut mettre Dijon-Lyon, on veut pas mettre l'entraîne. Donc, on se retrouve avec un match à 19h, qui est un peu dans la même idée qu'il y a eu le Saint-Étienne un dimanche à 17h. Mais là, franchement, le entraîne, moi, j'ai vraiment les boules. J'avais envie de faire le déplacement, à cause du boulot, on pourra pas y aller.
Ouais, les matchs à 19h. Ouais, c'est vrai, surtout le vendredi, c'est le plus mauvais créneau pour les supporters.
Tiens, pour être très complet, hein, le calendrier de Rennes pour la fin de saison, donc c'est ce déplacement à Nantes, tu viens d'en parler, Benjamin. Ensuite, il y a deux matchs à domicile, Toulouse et Strasbourg, un déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, et ils termineront à domicile face à Montpellier. C'est pas si évident, hein, comme calendrier. Hein,
c'est Toulouse et Strasbourg.
Ça va être chaud. Ouais, mais oui, je vous le maintiens, ils vont avoir le couteau entre les dents, les mecs.
Ouais.
Mais par contre, je voulais quand même souligner.
Bah non, mais là, tu t'es planté contre Metz à domicile.
Ouais, tu peux le faire une fois.
Ouais,
au niveau du recrutement, je voulais souligner aussi un point. Donc, au niveau de l'équipe dirigeante, je pense que sur le long terme, ça va être judicieux ce qui a été fait. Par contre, il y a eu quand même avec Ismail Assar et les 17 millions d'euros aujourd'hui, on peut les remettre quand même en question, notamment sur le montant du transfert, pas sur la qualité du joueur. Je pense que c'est un bon joueur, mais sur le montant du transfert. Et il y a eu un autre joueur qu'on voit plus du tout, dont on parle plus à Rennes, mais qu'on a quand même acheté 10 millions à Nantes, qui s'appelle Fetou Mawata, qui met pas un pied devant l'autre, qui est tout le temps en équipé, Donc voilà, il y aura clairement des choses à revoir au niveau du recrutement. On attend le retour d'Amari Traoré à droite pour prendre le poste de Bandé. Et puis voilà, et puis remettre de l'engagement physiquement. Et je pense que les derbies, si ça passe au derby, ça se relance. Si on gagne pas après Nantes, on sera pas européen.
Eh ben, c'est dit, Benjamin. Bonne soirée à toi, Benjamin. À bientôt.
Bon courage.
Merci.
Salut,
à bientôt, Benjamin. On accueille Simon, autre supporter rennais qui nous a appelé au 32-16. Salut, Simon.
Bonsoir, messieurs.
Salut, Simon.
Bonsoir, Simon.
Bon, comment tu vas, Simon, ce soir, toi?
C'est la maladie du Rennais, comme François le disait, Rennes a fait du Rennes. Mais d'un autre côté, comme disait Benjamin un petit peu aussi, je regarde les résultats, je me dis, on a encore de l'espoir. Après, de l'espoir, quand tu perds contre le dernier, c'est vrai que ça te met vraiment...
Non, et surtout à domicile.
À domicile, ouais. Puis moi, j'étais à Nice le week-end dernier. J'ai eu la chance de faire deux matchs dans le week-end, le derby de la Lanterna à Gênes. Et puis le lendemain, on a été voir Nice-Rennes. Et franchement, c'était agréable, le match à Nice. Je pensais vraiment qu'on aurait perdu là-bas. Et c'était vraiment... Il y avait vraiment beaucoup d'intensité. Je trouvais qu'on aurait pu ramener les trois points. Et là, tu te dis, tu joues le dernier, t'enchaînes. Voilà, on y va, quoi. Et puis, non, on dégringole encore. Bon, si on va aller à Nantes, ça se trouve, on va aller gagner à Nantes. Mais après, je sais plus qui en soit après. On va peut-être encore
revenir.
Ouais, Toulouse, tu vois, ça va être typiquement ce genre de scénario jusqu'à la fin. Je pense qu'il reste 5 matchs. On verra la dernière journée. On reçoit Montpellier. Donc, on sait que ça sera un match peut-être coup près pour la 5e place ou la fameuse 6e place que personne ne veut. Mais voilà, avec Rennes cette année, on se prend pas la tête. Moi, je regarde les matchs depuis un moment. C'était vraiment agréable. Les matchs contre Monaco, Nice, même à Lyon, même si c'était un peu plus stressant. Mais voilà, il y avait des choses intéressantes. Ce soir, on retombe dans nos travers. C'est du classique. Hein, donc, on s'y fait. Et puis, on va aller à Nantes. Sereinement, pas vraiment, mais on est habitué à gagner à Nantes. Donc, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas encore une fois? Et puis, on se relancerait sur la fin de saison. On verra. Mais voilà, on va pas se prendre la tête. On sait qui on est. Et puis, on sait ce qu'on vaut. Donc, pas de prise de tête. On espère qu'on finira le plus haut possible.
Philosophe et positif,
elle est
finalement.
Exactante,
Simon.
Hein, je regarde un peu le calendrier. Cette course pour la 5e place.
Bien sûr.
Saint-Etienne va recevoir 3 et ils sont avertis de l'erreur que vient de faire Rennes. Donc, ils devraient pas faire la même connerie face à une équipe qui est en difficulté. Nice, tu l'as dit, reçoit Montpellier. Nice qui est 7e face à Montpellier, donc qui est ce soir est 8e, ou bien c'est 6 et 7, pardon. Et puis Rennes, le derby, on en a parlé. 35e journée, c'est Rennes qui reçoit Toulouse qui est mal classé. Nice se déplace à Strasbourg qui va lutter aussi pour sa survie. Et Saint-Étienne a un déplacement compliqué, ils vont à Montpellier. Ça va vraiment jouer peut-être à un point.
Ils se croisent, hein, donc forcément.
T'as 3 courses très excitantes entre la 3e place.
Personne ne se détache.
La 5e.
Et a priori, avec les journées qui arrivent, ça va être très compliqué de se détacher aussi.
On remercie Simon, supporter rennais qui nous a appelé au 32-16.
Merci Simon, salut Simon.
Évoquons quand même le cas du FC Metz. Alors, on disait que la belle série des Rennais s'était achevée, hein, leurs 8 matchs sans défaite. Mais du côté de Metz, c'est une sale série qui s'achève également. Ils restaient sur 9 matchs sans victoire, les Messins. Au match aller, il y avait eu un partout quand même déjà, rappelons-le. Hein, Rennes a du mal face à cette équipe de Metz également. Il y avait la dernière victoire de Metz, c'était le 27 janvier dernier contre Nice, 2-1. Là, ils sont allés gagner à l'extérieur. On est avec Laurent, supporter messin, qui est avec nous en direct dans l'after. Salut Laurent.
Bonsoir messieurs.
Salut Laurent.
Salut Laurent.
Alors Laurent, la question elle est simple mon gars. Est-ce que tu crois au maintien Metz est dernier ce soir avec 4 points de retard sur Lille et Troyes?
Si on n'y croit pas maintenant, on n'y croira jamais. Disons que... On était à 13 points quand Hans est arrivé, on était à 13 points de la 18e place et aujourd'hui on en est à 4. En plus avec ce qui est arrivé à Lille sur la fin de match, ça change vraiment la configuration. On n'est plus vraiment à 4 points de cette 18e place avant la réception de Caen, le déplacement à Lille, la réception d'Angers, après on va à Amiens. Donc potentiellement...
Ouais, Laurent, Lille-Metz, tu mets une grosse croix rouge là au niveau du calendrier.
Là, il faut y aller.
Parce que celui-là... En plus, vous vous déplacez, et je pense que...
Ils reçoivent avant, quand?
Vous recevez quand avant, d'abord, mais vous déplacez à Lille.
Ouais.
Après Angers et Amiens. Donc, potentiellement des matchs très abordables. Mm-hmm. Et après, on jouera un dernier match contre Bordeaux qui aura peut-être rien à jouer. Donc, je dirais que si... J'espérais 4 points sur Strasbourg et Rennes. Pas dans cet ordre-là, en définitive. Je pensais qu'on pourrait gagner contre Strasbourg et faire un nul contre Rennes.
Tu penses à une place de barragiste ou carrément de sauver?
Ah ouais, non, franchement, faut viser. Moi, je serais heureux d'être 18e, ce serait.
Ouais, ce serait juste le barrage.
Là, ça fait 5 points avec Toulouse qui n'a pas joué encore. Hein,
Et le barrage, a priori, c'est contre les Corses, contre Ajaccio. Enfin, aujourd'hui, c'est ça.
Ouais, aujourd'hui, enfin, disons qu'on n'est pas dans la position de celui qui descend directement, donc on a encore de l'espoir, quoi. Quand on voit où on était il y a encore deux mois, un mois et demi.
Mais c'est vrai que c'est le combo du calendrier là, le Caen, Lille, Angers, Amiens, il est extraordinaire. T'as raison quand tu dis c'est le moment jamais.
Mais attention, par contre, Laurent. Cette équipe de Metz a du mal aussi contre les petites et s'exprime bien ces équipes qui jouent mieux au ballon.
Tu as raison, Ali.
C'est ça le problème.
Tu as raison, Ali, mais là on va quand même jouer contre des équipes qui ont aussi leur maintien à jouer et qui vont pas pouvoir se contenter de jouer des nuls, quoi. Donc en définitive, Lille a pas intérêt non plus à jouer des nuls cette partie de la saison. Donc ça va être des matchs de toute manière. Bon, on verra si on a l'étoffe de rester en Ligue 1 ou pas. Mais je dirais qu'on aborde des matchs qui sont beaucoup plus abordables que le match contre Lyon ou Paris ou que sais-je. Et on a quand même mené au score sur les 10 derniers matchs, on fait 5 nuls en effet et 5 défaites, mais on a mené au score à chaque fois qu'on a fait des matchs nuls. Ce qui laisse penser qu'on aurait pu avoir un peu plus de points, quoi.
Un gros big up quand même à Nolan Roux, hein, qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière.
14 buts. Ouais.
Je calculais tout à l'heure, il a inscrit 45% des buts du FCMS cette saison en Ligue 1.
Ouais, il est énorme. C'est colossal. Il est exceptionnel.
14 buts pour un 31 qui est avec la lanterne rouge.
Ouais, oui, c'est remarquable. On en revient encore une chose.
Tiens, avant de te laisser, Laurent, petit mini quiz pour toi. La dernière victoire de Metz contre Rennes, c'était le 13 avril 2002. Ça date quand même, les mecs. Hein.
Ah oui, carrément. Wow. Ouais.
Vous vous souvenez des 2002 buteurs? Ouais, 2002. La dernière victoire contre Metz, la dernière victoire à Rennes de Metz, c'était le 9 septembre 2000. C'est Baticle qui avait marqué pour le FC Metz.
Gérald Baticle, ouais.
Ouais. En 2002. Il y en a un, c'est un très grand joueur, c'est le cas de le dire hein, d'ailleurs, par la taille et le talent. Non, la taille et le talent.
La taille.
Il a joué à Monaco.
Non mais évidemment, il est togolais.
Oui, exactement.
Ben oui, c'est Adebayor.
Adebayor, vous allez rêver les mecs, hein. Bastien et Marshall avaient marqué pour le FC Metz, victoire
3. Sylvain Marshall, avec qui j'ai joué quand j'étais gamin.
C'est vrai?
Non. Oui, ah bah, tu vois, on les connaît.
Et bah bonne soirée à toi, Laurent. Bisous à Marshall.
Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci.
J'ai appris que Padovano, qui a joué à la Juve, est passé par Metz.
Oui.
Voilà. T'as un bon petit attaquant.
Mais c'est vrai.
Avant, équipe Metz, c'était une très bonne équipe. C'était très dur de prendre des points à Metz.
Mais tout à l'heure, hier, on le disait un peu sur le ton de la rigolade. Metz, c'est la première équipe française qui ferait une vraie remontada face au Barça.
Ouais.
Mais c'est une des plus grandes.
Oui, tiens, on parlait des gros exploits européens.
Oui, c'est vraiment des exploits européens du
football français.
Exactement.
On vous attend au 32-16, supporters de Strasbourg et de Saint-Etienne. Saint-Etienne s'est imposé 1-0 ce soir à la Méno. Le buteur Mathieu Debuchy, voilà, l'inarrêtable Mathieu Debuchy. Vous avez pensé quoi de ce match? On vous attend pour en parler dans quelques instants au 32-16 avec Ali Benarbia et François Monardo. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarbia et François Manardo, bien entendu, et vous, votre rente de 16 sur le hashtag RMC Live. Je vous rappelle les résultats de cet après-midi, 33e journée de Ligue 1. Victoire de Lyon, 3-0 face à Amiens. On vous attend au 32-16, supporters de l'OL et Picard pour revenir sur ce match. Supporters lillois également. Vous meniez 2-0 face à Guingamp. Il y a eu 2-2. Guingamp qui a égalisé, qui a marqué 2 buts dans le temps additionnel. Dijon a fait match nul à Nantes, 1 partout. Et on l'a évoqué il y a quelques instants, la victoire du FC Metz à Rennes, 2-1. Et Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Strasbourg également. Et on vous attend pour en parler dans quelques instants. On retourne voir ce qui se passe entre Tottenham et Manchester City avec Lucas Vinois. C'est la grosse affiche de la 34e journée de Première Ligue et pour une fois ça se joue en prime time.
Ah oui, ça se joue en prime time, c'est seulement la troisième fois dans l'histoire de la Première Ligue qu'on joue un samedi à 20h45. C'est quand même un événement qui n'a d'ailleurs pas ravi les supporters de Manchester City hein, puisque c'est compliqué pour eux de faire le déplacement.
Il y a ils sont quand même contents ce soir.
C'est un peu compliqué. En tout cas, il y a 3-1, le score a été corsé par Raheem Sterling qui a inscrit un but sur une frappe repoussée par Hugo Lloris mais bien suivie à la suite d'un corner. 3-1 donc pour Manchester City après 85 minutes de jeu face à Tottenham à Wembley.
C'est dur en ce moment pour Lloris hein. Il a fait deux erreurs sur les deux derniers matchs et là encore là, il prend un carton jaune qui aurait pu être un rouge sur une grosse action là de City en première période. C'est assez compliqué pour Lloris.
Donc là, ils peuvent être champions ce week-end.
Oui, apparemment.
Cinquième titre.
Il y a également du rugby ce soir. Le Loup face au Stade Français. Laurent Depré.
Le Loup, oui, qui est en train de
jouer. Il paraît qu'il n'y a pas match.
Oui, il est en train de rugir et de manger le soldat rose tout cru puisque le score est de 44 à 3. Il n'y a pas match et on va peut-être avoir un cinquième essai. One, non, c'est raté. Et une info en passant pour les amoureux du rugby et d'équipe de France. On est inquiet pour Baptiste Couilloul de Minuelet du Loup, sorti après un vilain plaquage à retardement, se tenant les côtes et en pleurs visiblement. Blessure assez grave pour Couilloul. Il reste 3 minutes à jouer. 44 à 3. Le job est fait pour le Loup qui se rapproche de son objectif. La qualification pour les playoffs. Quant au Stade français, c'est contre Brive dans 2 semaines qu'il faudra jouer le maintien.
Merci beaucoup Laurent, et nous on va revenir sur cette victoire de Saint-Etienne, donc 1-0 face à Strasbourg, victoire à la Meno, le buteur Mathieu Debuchy, et oui, encore lui. Saint-Etienne, on vous rappelle le classement, Saint-Etienne est 8e avec 46 points, alors au-delà de la position au classement, c'est surtout le nombre de points qui est important, puisque Saint-Etienne eh bien n'a qu'un point de retard sur Rennes et Nice, qui sont 5e et 6e, qui sont aux places européennes, donc elle est vraiment étonnante cette équipe de Saint-Etienne. On parlait de dynamique tout à l'heure. 11e match sans défaite pour les Verts. C'est dingue hein, quand même. Et tu l'as ton classement sur BFM Sport.
Alléluia. Ben, ça fait plaisir parce que en même temps qu'on explique, les gens à la télé, ça leur permet de calculer et de regarder un petit peu ce classement-là. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'ont fait les Stéphanois depuis cette trêve. Faut pas l'oublier. Ils se battaient plus ou moins pour le maintien. Ils se retrouvent maintenant à jouer la 5e place, ce qui habituellement est la place des Stéphanois du temps de Galtier. Et donc, en faisant les changements, j'espère juste une chose, moi. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as des joueurs. Ils sont prêtés, ils doivent se relancer, c'est une chose. Si on arrive, dans ce club-là, avec des actionnaires ou pas, à essayer de garder un maximum de ses talents, ce qui va pas être évident, je veux dire, là, tu peux retrouver vraiment une très bonne équipe. C'est un bon club, avec des bons supporters. Si en plus, tu as une très bonne équipe, solide, et qui peut permettre de jouer de la 5e à la... Enfin, allez, on va dire de la 3e à la 5e place tout le temps, et pouvoir jouer en Coupe d'Europe, là, t'as de quoi faire, en fait, avec cette équipe Saint-Etienne.
Ce qui est étonnant, François. Ce qui est étonnant, c'est que Romeyer arrive, finalement, à l'espace de 6 mois, complètement revoir la stratégie, parce qu'il se plante avec Oscar Garcia dans les grandes largeurs.
Est-ce qu'il s'est pas effacé, François?
Partie du recrutement, et puis c'est Romeyer qui
s'est effacé,
qui impulse ce recrutement-là, qui est un recrutement réussi, qui est le meilleur recrutement de tous les clubs français à la trêve.
Donc, entre ça vient de Romeyer,
entre Mvilla. Ben, je pense que, enfin, jusqu'à ce qu'ils nous disent le contraire, ou je peux me tromper.
Ben non.
Mais même plus Romeyer que Kayadzou.
Non, je dis pas. Je suis pas sûr que ça vienne de Romeyer, dans le sens que il veut mettre sablé.
Ce que je veux dire.
Attends, il veut mettre sablé.
Attends. Non, mais je laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est que il arrive à revoir la copie et il réussit. Parce que dans le recrutement entre Mvilla, qui est un pari, mais qui réussit, Entep.
Mais c'est pas Romeyer. Continue, mais c'est pas Romeyer.
Debuchy et c'est Stepanovic qu'ils ont récupéré de Dortmund. Non,
Subotic,
pardon. Ça marche. Et puis, il n'y a pas que ces joueurs, mais ça reprend au niveau
collectif. Alors vas-y, t'es pas
complètement.
D'accord, lui. En
oui,
t'es pas d'accord.
Je pense pas que c'est Romeyer. Romeyer recherchait quelqu'un du club, style sablé, d'accord avec moi. Vous voulez pas spécialement autant d'arriver, mais par contre, je pense que l'extérieur, je sais pas si c'est Kayazo ou quelqu'un d'autre, ramène Paquet. Paquet fait plus ou moins ce recrutement avec Jean-Louis Gasset.
Oui, mais quoi qu'il arrive, on peut pas dire que le casting a été mal fait de la part de Romeyer. Il essaye de rattraper le coup, même s'il délègue.
C'est pas une question de casting, c'est que il a.
Oui, mais c'est lui qui décide.
Non, mais il a eu toutes ces années et on le sentait qu'il décidait, qu'il était présent.
Oui, mais allez, si Paquet va à Saint-Etienne, c'est parce que Romeyer le veut bien. C'est lui qui signe son contrat. C'est ce que je veux dire. C'est aussi grâce à lui quelque part.
C'est pas ça. Le fait.
Non, il y a une remise en question en 6 mois.
Complètement.
Une remise en question. Il faut saluer ça.
Peut-être effacer et laisser.
Ouais.
Même si c'est un supporter qui aimerait faire la chose de moi.
C'est une preuve d'intelligence, surtout dans ce milieu.
Oui, c'est clair,
surtout dans ce milieu, et quand t'es président et que tu mets, c'est toi qui
fais le chèque. Mais ça fait un certain temps.
De s'effacer, hein.
Non, mais ça fait un certain temps.
Surtout après alors l'échec. Que parce que tu veux rattraper un échec. L'échec de Garcia, tu veux le rattraper.
Si un club comme Lens, qui a le potentiel, François, supporter, footballistiquement et tout, comme Lens, c'est bien Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, quand tu en es une équipe solide, qui joue bien au malin et qui se permet.
Enfin, Ali, alors attends.
C'est différent.
Est-ce que le mérite alors toi tu le mets entre les mains?
Je ne sais pas, mais je savais.
Bah, c'est collectif, mais comme la défaite était ou le démérite était collectif aussi. Mmh. Mais juste un truc, puisque tu parlais.
Le président qui agisse aussi.
Tu parlais du côté populaire et tout. Je veux pas faire le mec pas romantique, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que t'as beaucoup de supporters que t'es un club qui peut pérenniser au niveau professionnel et au très haut niveau. C'est pas ce qui te rapporte de l'oseille aujourd'hui, c'est pas les supporters.
Non, je dis pas le contraire, mais quand tu as des actionnaires qui veulent venir, la première chose qu'ils regardent, c'est la capacité, le remplissement du stade et un petit peu, pas la popularité, mais l'engouement peut avoir un club. Quand tu prends Lens et Saint-Étienne,
c'est vrai que Lens avait un pouvoir d'attraction par rapport à ça.
Et Saint-Étienne, pareil pour un actionnaire.
Et ben on va accueillir Damien, supporter des Verts. Il est en direct avec nous dans l'after. Salut Damien.
Salut les gars.
Salut Damien.
Bonjour Damien.
Bon alors Damien, là, elle est énorme là cette série là. 11 matchs sans défaite. Saint-Étienne n'a plus perdu depuis le 21 janvier. C'était à Nice, on a déjà oublié. Une défaite 1-0 avec un petit calendrier sympa à venir. Match à domicile face à 3, Montpellier, Bordeaux, Monaco et Lille quand même. C'est intéressant hein, ce qui attend Saint-Étienne pour cette fin de saison. Est-ce que tu te mets à rêver à l'Europe Damien?
Oui, après bon, il va falloir faire autre chose que ce soir par contre, parce que ce soir ça n'a pas été fameux. Heureusement qu'on a eu Ruffier, Subotic.
Oui, gros match puis, du Ruffier, Damien.
Ouais, gros match du Ruffier, et puis voilà, Debuchy toujours dans les bons coups. Après oui, ouais, bien sûr, on se met à rêver. Après, on sait bien que depuis le mois de janvier, ça a complètement changé. L'organigramme a changé. Bon après moi, je rejoins Ali hein, sur le fait de remayer, quoi, parce que bon, c'est pas tout remayer qui a fait venir ça c'est clair. C'est lui qui a l'initiative de la venue de Gassé. Après, Gassé, pour beaucoup, on l'entend pas, et c'est un coach qui est vraiment aimé et qui a la poigne surtout. Donc ouais, c'est bien, mais aller en Europe, ça serait bien, ça serait super, mais avec quelle équipe, avec quel entraîneur? Avec quoi?
Tu as le temps de voir Romeyer ou quelqu'un d'autre.
Je suis d'accord avec lui.
Évidemment, on est d'accord. Mais c'est une question stérile pour l'instant.
Non.
Pour l'instant,
non,
d'abord,
je pense que le supporter
n'est pas européen.
Je pense que Damien a la réponse. Moi, je pense. Non, on a dit au cas où. Je pense que Damien a la réponse. Il sait que ça va être la débandade, c'est-à-dire ceux qui ont été prêtés pour un tremplin vont se barrer, et c'est pas sûr que Jean-Luc Gasset reste. Alors là, je te souhaite bonne chance.
C'est vrai que c'est une politique du court terme, mais t'étais dans l'urgence.
À ce moment-là, Saint-Étienne qui est moribond à la fin de l'année 2017, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un recrutement de la sorte pour redresser la barre et qu'il soit réussi en plus. Ils ont parfaitement le droit à Saint-Étienne de refaire le même coup sur un mercato qui est plus ouvert que celui d'hiver. Pourquoi ils pourraient pas espérer les Verts?
Attention,
deux secondes, messieurs, c'est terminé au rugby entre le Loup et le Stade Français, Laurent Depré.
Oui, avec une victoire sans partage du Loup qui conforte son grand espoir de se qualifier. 44-3, 6 essais à 0. Le Loup qui rejoint Toulouse à la 4e place de ce top 14. Toulouse avec un match en moins qu'il va disputer demain. Le Stade Français reste scotché, premier non relégable ou non barragiste, 12e avec 38 points. Allez, une semaine de vacances pour tout le monde et rendez-vous pour la 25e journée, ça sera à vivre évidemment sur RMC.
Et bah bonnes vacances Laurent alors.
Bah non, il y a la Coupe d'Europe.
C'est ça qui rebondirait. Bonne soirée Laurent.
Ciao.
Salut Laurent.
Pardon, je vous ai coupé messieurs, vous étiez en plein débat mais c'était terminé.
Bah, ça y est, tu m'as tout cassé là.
C'est vrai?
Le Loup, ça faisait 40 ans qu'on savait qu'il gagnait contre le Stade Français. Tu voulais juste la fin du match, dis-nous ça.
Mais juste pour revenir, Damien, t'es un peu inquiet toi quand même par rapport à ça, à ce recrutement on va dire, dans l'urgence qui a été fait, mais faut dire que la situation était quand même très compliquée pour les Verts hein, cet hiver.
Ah, ça c'est clair. De toute façon, t'aurais continué avec l'équipe qu'on avait dans les 6 premiers mois, tu serais à la place de Lille aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Ça ne faut pas se voiler la face. Hein. Après voilà, c'est bien ceux qui ont pour une fois qu'il y ait des joueurs prêtés à notre club qui apportent un vrai plus. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un moment ça quitte tout double, hein, ça tu vois Kentep. C'est plus un souci physique parce que moi il me fait de la peine ce joueur quand je le vois sur le terrain.
Ouais, c'est vrai.
Il me fait vraiment de la peine. Il a vraiment un gros problème physique, je pense. Et voilà, c'est des trucs comme ça. Bon, Angula, c'est une bonne pioche. Capello, c'est voilà, ça on savait avant. Très bon caractère en plus, très bonne mentalité. Moi, l'image qui m'a frappé de lui, c'est quand on a perdu 4-0 contre Monaco, c'était le seul qui a pleuré sur le banc de touche en sortant à la fin. Et pourtant, c'est un joueur prêté par Marseille. Après, Subotic, ben voilà, bon, on sait bon, d'où il vient. Voilà, c'est bien. Mais en fin de saison, le problème, c'est que quand on pose la question aux dirigeants et tout,
ils n'ont pas de réponse.
Et au directeur général, il n'y a pas de réponse pour l'instant.
Ouais. Non, et ce qui me fait peur, c'est qu'en plus, Damien nous dit tous les bons joueurs qui sont importants, qui sont des leaders dans la technique ou leaders de vestiaire comme Subotic, comme Mbila aussi. Mais la plupart, on le sent, c'est même Debuchy, c'est du tremplin à tout va. C'est ouais, que du suis, tremplin. Je suis persuadé, François.
Oui, mais après, tu peux être pris dans une spirale aussi. Tu peux dire, tiens, le projet est pas mal, les gars. Alors attends, je te pose la question à toi qui a été dans un vestiaire.
Ouais,
est-ce que si t'es... Alors, on va dire, t'as un projet à court terme. La chose se passe bien, ça va au-delà même de toutes les espérances et tu deviens européen. Est-ce que dans le vestiaire, tu peux pas avoir des conversations du type « Bon les gars, ça marche bien entre nous, pourquoi on rempilerait pas par exemple ?»
Ça c'était avant ça.
Non, après, c'était
Ali,
avant.
Ali. Maintenant, c'est fini.
Bah, pourquoi Ali, tu dis ça?
Oui, Ali, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Maintenant, c'est fini. Bah, ça dépend, Ali. Ça peut exister,
non? Maintenant, c'est fini.
Mais pourquoi ce serait fini?
Parce que c'est fini, parce que ce style de joueur-là vient au moment où Saint-Etienne va mal. Là, pour eux, c'est jackpot sportivement. Je parle pas d'argent. Jackpot sportivement. C'est maintenant ou jamais que le tremplin marche.
Ali, on va dire. Alors, ils font ce que tu dis. OK, ils se barrent parce que
non,
le
c'est
tremplin.
C'est pas se barrer.
Attends, mais si,
s'il y a une offre,
tremplin, maintenant. Je me casse.
Oui.
Alors, et on va dire, mais regardez, c'est tous des mercenaires, voilà.
Mais ça, okay.
C'est l'orientation qui est facile où tu vas dire, bah, les joueurs de foot, voilà, et c'est normal, la carrière, elle est pas très longue, donc s'il y a un très beau contrat, tu le prends et tu te barres de Saint-Etienne.
Mais je parle de ça, François.
Bah, tu parles de quoi?
Je te parle des gens qui sont mal, et qui ont le tremplin, pas des joueurs qui vont profiter d'un bon contrat financier. Ils sont mal au niveau sportivement. Debuchy, boum. Mvila, pareil. Prends-les un par un. Cabella, qui disparaît, que Marseille le prête parce qu'ils en veulent pas. Et au fur et à mesure, il fallait qu'ils réussissent sportivement pour re-être dans le devant de la scène.
Et ben, c'est ce que dit Nicolas.
Et le
fond,
devant de la scène,
c'est qu'ils se barrent.
François, le devant de la scène, c'est se barrer. Le devant de la scène, c'est se barrer. C'est pas pour rester à Saint-Etienne.
Il y a une possibilité aussi que ils voient que ces joueurs-là, que la mayonnaise a bien pris.
Oui.
Il y a une possibilité d'Europa League.
Là, oui.
Et ils peuvent se dire, pour certains, après tout, j'ai aussi un peu besoin de stabilité.
Ça peut être une vitrine aussi, d'ailleurs.
Et ça peut faire encore une vitrine pour qu'à la fin de l'exercice 2018-2019, eh ben, je fasse encore un plus beau contrat.
Tiens, en parlant de vitrine,
c'est
messieurs,
une possibilité.
Il y en a une belle là qui vient de s'éteindre. Là, il y a quelques instants, Lucas Vinoy, c'est terminé entre Manchester City et Tottenham.
Oui, 3 buts à 1 pour les Citizens, donc face à Tottenham. Pas de quatrième défaite d'affilée pour Pep Guardiola, mais surtout la première défaite en 2018 en première ligue pour Tottenham. On rappelle les buteurs, Gabriel Jesus, à la 21e, Gundogan à la 24e, Sterling à la 72e. C'était Eriksen qui avait réduit l'écart à la fin de la première période.
J'ai une question, Agüero jouait titulaire ou pas?
Non, Agüero ne jouait pas, il était forfait.
Il est toujours pas opé physiquement, ouais.
Il était forfait physiquement.
Oui, il était forfait.
C'est sûr, hein.
Ça a été annoncé par Pep Guardiola en conférence de presse.
Merci.
Merci beaucoup, Lucas.
Ciao.
Bonne soirée, ciao, Lucas Vinoy. Victoire donc, on sera de Manchester City 3-1 sur la pelouse de Tottenham. On sera avec Philippe Auclair tout à l'heure. Il y a eu pas mal de buts, hein, pas mal de choses également. On termine avec toi, Damien. Bon, t'es comment là pour la saison prochaine? Parce que forcément, tu dois te projeter également aussi.
Lui aussi, il est sur un tremplin.
Ouais. Non, mais c'est vrai, le mercato va être important à Saint-Etienne. Il y a beaucoup d'incertitudes finalement.
Bien sûr, et puis il y a des incertitudes aussi. Déjà, bah, de toute façon, ça va déterminer par rapport à la place où on va finir. Et voilà, on voit des mecs encore comme Ruffier,
Amouma,
et une grosse interrogation sur Bamba aussi.
Exactement.
Pareil, en tant que joueur,
il n'a pas prolongé, c'est ça?
Il n'a pas prolongé encore, non, il n'a pas prolongé.
Donc ça veut tout dire.
Ça sent mauvais. Mais l'erreur qu'on a fait, c'est pas maintenant que tu le prolongeras, c'est avant qu'il fallait le prolonger. Maintenant, ça se trouve, il a déjà signé avec un autre club, on ne sait pas. Voilà.
Après, maintenant, ça fait beaucoup de joueurs de tout cœur.
Si on peut garder Gassé, de toute façon, à partir du moment où on sait qu'on gardera Gassé,
oui,
c'est qu'il aura les garanties derrière, parce qu'il partira pas dans le vide comme ça. Donc voilà. Et puis j'espère que ça nous aura servi de leçon pour cette fois-ci.
Espérons, Damien.
Et ben, le message est passé. Merci, Damien.
Merci à vous, Damien. Les gars, et continuez comme ça, c'est super.
C'est gentil, Damien. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Damien.
Après, bonne soirée, ciao, bye bye, à bientôt. Ciao.
L'avenir de Jean-Luc Gassé, il peut aussi être lié à celui de Laurent Blanc, qui un jour ou l'autre va peut-être retrouver un club.
C'est même sûr.
Bon, bah, ça fait long, là, quand même, non?
2 ans?
Bah, ouais, ça fait beaucoup, non?
Ça veut rien dire.
Après, c'est long, quand même, Ali.
Non, mais il peut avoir, avec ses
projets.
Paris Saint-Germain, il était pas tout de suite pressé, si tu veux, de retravailler.
Oui, mais je te parle pas d'argent.
Maintenant,
tu sais comment fonctionne le circuit.
Ça va commencer à le démanger, quoi. Le golf,
mais je pense qu'il a dû avoir des projets et qu'il en a refusé quelques-uns.
Oui.
Et avec le temps, t'en refuses moins de projets.
C'est ça. Là, on est d'accord.
Dans quelques instants, supporters de Lille, supporters de Guingamp, on vous attend au 32-16, notamment vous, supporters de Lille, vous qui meniez 2-0 face à Guingamp ce soir, vous disiez c'est bon, ça y est, c'est terminé, la poisse, on va monter, on va sortir de la zone rouge. C'était le cas jusqu'à la 90e, jusqu'au but contre son camp d'Alonso, 2-1, jusque là ça passait. Et puis, Jimmy Briand, dans le temps additionnel, a égalisé pour Guingamp, et Lille reste enfoncé dans la zone rouge. Comment vivez-vous cette situation, supporters du LOSC? On vous attend au 32-16 dans quelques instants avec Ali Benarbia, François Manardo, et attends, avec Ali Benarbia et François Manardo, tu vois,
Marteau,
j'arrive à le faire, on l'a refait.
Marteau.
Et sur le hashtag RMC Live, ouais, tout
Marteau.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia et François Manardo en pleine leçon de langue, c'est aussi ça l'after, bien entendu. El Pollo, bien sûr, c'est le poulet.
Oui, oui, c'est le
ou frango, ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, je vois Pollo,
c'est une coque.
Moi, je vois Pollo, je pense toujours au poulpe. On dit pauvre ou en guêche, tu vois.
Ouais, le flingue en crapaudine, tu devrais en faire la
c'est
publicité.
C'est quoi une guêche?
Le portugais, en portugais.
Ah, en portugais,
c'est plus court. Genre tu disais quoi de faire la publicité de
le poulet en crapaudine.
C'est quoi ça, crapaudine?
Oh, arrête, en crapaudine.
Ah,
c'est
en mode. Ah oui, oui, bien sûr.
Ouvert.
Pimenté.
Ben oui, pimenté, bien sûr.
En portugais, ça, ouais.
Frango asado.
Exactement.
Un crapaud et un poulet asado.
Pura vida.
Pura vida.
Pura vida.
Pura vida.
Pura vida. Pas Portugal. Non, on parlait de Paulo Wanchope.
Costa Rica.
Ancien attaquant costaricien qui a joué.
Tu,
avec,
alors, avec qui t'as joué? Voilà. À Manchester City, il paraît que t'allais le visiter au Costa Rica.
Et au Costa Rica, on dit Pura vida.
Et c'est exceptionnel.
Comme pays, tu parles?
Ouais, comme pays.
Tout, c'est un super joueur, Wanchope.
Ben, c'est le pays le plus, écolo du monde.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est clair.
Non, c'est un beau pays.
Pour la vie.
Je donne les résultats de la 33e journée de Ligue 1 d'aujourd'hui. Lyon a battu Amiens 3-0. On y reviendra dans quelques instants. N'hésitez pas à appeler au 32-16, supporters de l'OL et d'Amiens. Lille, Guingamp, 2-2. On va en parler dans quelques secondes. Strasbourg s'est incliné à domicile 1-0 face à Saint-Etienne. 1-1 entre Nantes et Dijon. Et Metz s'est allé s'imposer 2-1 face à Rennes. On va s'attarder un petit peu sur ce Lille-Guingamp. Lille qui menait 2-0 après un très joli but de Pépé. Pépé passeur décisif ensuite pour Araujo. 2-0 à l'heure de jeu pour Lille. Dans le temps additionnel, Alonso marque contre son camp, ça faisait 2-1 pour Lille toujours. Et en toute fin, au bout du temps additionnel, c'est Briand qui a permis aux Bretons d'égaliser et de revenir à 2-2. Ça fait 10 matchs sans victoire pour le LOSC. Le LOSC qui ce soir est avant-dernier à égalité de points avec 3 qui est donc barragiste. Lille qui compte un point de retard sur Toulouse qui est 17e et qui jouera donc demain. Ce scénar, les gars...
ça pue.
Ouais,
ouais, c'est le scénar d'une équipe qui va descendre, hein, parce qu'elle a plus les ressources mentales, parce qu'elle a cette faiblesse qui la, je pense, qui la condamne. Le scénario de ce soir et ce résultat, quand tu es joueur lillois, c'est terrible. C'est vraiment le coup de couteau qui te flingue. J'ai pas le calendrier du LOSC là par cœur en tête, mais ça c'est un match qui fait tellement mal dans une dynamique qui est déjà dure, mauvaise, négative. Ce résultat contre Guingamp et la façon dont ils sont rattrapés, tu vois, de façon l'expression de Galtier à la fin du match,
il est dépité,
révélatrice.
Ouais, mais bon, ils ont eu l'habitude, les Lillois. Ça leur est pas arrivé
mais
qu'une
mais
fois.
Maintenant, tu es dans même un si money time où tu as vraiment le.
François, même si t'es pas bien,
le doigt sur
même en gagnant 2-0, ça t'est tellement arrivé. On l'a vu avec les Lillois. Même en gagnant 2-0. Tu sais que ça va être très dur à la fin parce
tout
que ça t'est arrivé
toi.
Tellement.
Lille, de toute façon, tout.
Non, mais qu'est-ce que tu fais, François? Il faut de l'agressivité, je suis désolé. Il faut pas penser qu'à football.
Bien sûr qu'il faut de l'agressivité, Ali, mais dans la situation
si
d'une équipe qui est à ce
beaucoup
point...
Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'agressivité que de bien jouer au football quand tu vas pas bien, oui.
Oui, mais alors, Ali, exactement, sauf qu'on l'a souvent dit dans l'émission, pour avoir cette agressivité, il te faut des leaders. Et tous les leaders de cet effectif lillois, ils ont mis à la cave en début de saison, mais parce qu'il fallait revoir la copie, parce qu'il fallait vendre.
Mais par contre,
avait plus
quand tu es là, il y a des leaders qui peuvent s'exprimer quand tu gagnes 2-0, pas quand ça va mal. Et là, quand tu gagnes 2-0, ces leaders peuvent s'exprimer en disant. Et il y a beaucoup de Sud-Américains, je veux dire. Hey, on se tient un petit peu les. Tu m'as compris. Et on lâche
oui,
pas.
Non, mais bon, c'est pas parce que t'es Sud-Américain que tu t'improvises leader.
Et on renvoie et on sort un petit peu les couteaux.
Vous voulez
et
voir
c'était important de sortir les couteaux.
Vous voulez voir le calendrier Lille. Alors là, ça va être très redondant. On va souvent revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est hyper important. Il reste peu de matchs maintenant et il y a pas mal d'équipes qui vont se croiser aussi. Mais le calendrier aura son importance aussi pour cette fin de saison, forcément. Prochain match de Lille, ce sera au Vélodrome. Ils vont recevoir Metz, ils vont aller à Toulouse, ils vont recevoir Dijon et ils termineront à Saint-Etienne. Là, il y a trois matchs là, le Metz, Toulouse, Dijon. Celui-là, mon gars, il va valoir son pesant d'or.
Ah oui, donc. Les cartes seront encore distribuées, on va le faire à chaque journée, ça va encore être distribué.
Sauf que de toutes les équipes, là, on en a parlé de cette émission, alors Metz, Toulouse, Troyes, Lille,
Amiens,
je dois, voilà, Amiens.
Strasbourg, aussi, qui est pas bien.
Et Strasbourg qui a perdu ce soir. Je trouve que Lille est l'équipe qui affiche le plus de symptômes. Le plus de symptômes.
Mentalement, ouais. Bah, après, il y a hors terrain aussi, hein, j'ai envie de te dire.
Ça va les achever
encore. C'est banqueroute, hein, presque.
Beaucoup parlé, il n'y a pas dans cette équipe quelques leaders sur lesquels tu puisses te reposer pour vraiment te sortir de ce saut.
Et rajoute, François, même dans les dirigeants. On n'entend plus personne n'est là pour tirer le monde vers l'avant. Et beaucoup plus que les leaders sur le terrain, on voit même Galtier, ben, ça y est là, ça commence à fumer. Mais à côté de lui, on voit plus personne. tout le monde a disparu.
Bon, ce qui est pas forcément mauvais signe, hein, autant qu'on voit et on entend les acteurs.
Non, mais c'est là quoi, t'as besoin
de soutien.
C'est ouais, le vide de l'année, hein, c'est terrible. Hein.
On va accueillir Pierre, supporter du LOS, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre, bienvenue dans l'After.
Bonsoir.
Salut Pierre.
Bon, comment ça va Pierre?
Mais
là, c'est vraiment le scénar pourri.
T'as des bonnes questions, toi.
Mais c'est, attends, un peu pervers. Non, mais attends.
Tu mets le 2-0, tu t'es fait.
Tu veux que je te dise à quoi ça m'a fait, tu veux que je te dise à quoi ça m'a fait penser? Moi, j'ai débuté la journée sur, bon, sur SFR Sport avec un match entre Southampton et Chelsea. Et Sutton qui vit une saison qui était pas du tout prévue. C'est comme Lille, si tu veux. Alors, sans les problèmes financiers à côté, mais les mecs avaient une équipe montée pour l'Europe. Ils sont en train de jouer le maintien. L'année dernière, ils avaient viré Puel Salmon. Là, ils ont viré, Pellegrino. Enfin, bref. Ils jouaient le maintien. Ils menaient 2-0 contre Chelsea. Et ils ont perdu 3-2.
En face, il y avait un joueur qui était formé à Lille et qui a fait un très grand match.
Eden Hazard, bien entendu.
Oui, oui.
Mais surtout, Olivier Giroud, qui a claqué un doublé.
Ok, pour l'analogie, mais on est un peu plus touché par question française et qui touche Lille et le projet lillois.
Non, mais surtout qu'il y a d'autres symptômes, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Vas-y Pierre, je t'ai coupé.
Pour répondre à Ali, qui se posait la question où étaient les dirigeants, je crois que Marc Ingla est en vacances.
Ah oui, il commence à faire beau. Attention avec les « je crois ».
Oh, c'est une affirmation. Je pense que c'est presque une affirmation et qui peut être confirmée dans la seconde. Sur un plan arithmétique, si on va pas parler de ce match-là qui est comme les autres matchs précédents, qui est très frustrant, et je compte même plus le nombre de matchs où on avait marqué en premier, on s'est fait rattraper. Je crois qu'avec les deux mains, ça suffira pour compter. Ça fait plus de 5 fois, c'est sûr et certain. Marseille, je ne vois pas prendre un point ni gagner un match contre Marseille, sachant dans la dynamique où ils sont en ce moment. Mais il y a 7 points à prendre, je pense, sur ces 5 matchs qui restent, contre Metz, contre Toulouse, et pourquoi pas non plus un point contre Dijon, voire 3, ce qui nous permettrait d'espérer une 17e place. Mais bon, comme ça a été dit juste avant, je pense qu'on présente les symptômes d'une équipe qui va droit en enfer. Et je pèse mes mots parce que c'était pas possible. L'année dernière, on parlait d'une 5e place, etc. Tout ce qui s'est passé, on va pas le répéter toutes les semaines, mais c'est vraiment frustrant. Et aujourd'hui, où est le mental des joueurs? Et je vous jure que c'est vrai, à 2-1, quand ils ont marqué, quand Gagnon a marqué, j'ai coupé ma télé parce que je savais très bien que ce serait 2-2 à la fin. Et voilà.
Donc t'es parti toi aussi en vacances comme Ingla, à 2-1.
Attends, apparemment il était au bord de la pelouse, hein, Marc Ingla.
D'accord.
Voilà.
C'est pour ça qu'on peut pas faire des émissions avec les je crois sur des infos. Pour ça que
il nous a fait remonter l'info, il était là, Marc Ingla.
Mais ça change pas le manque de communication de la part des dirigeants, surtout en ce moment où les supporters ont besoin d'être rassurés, de se dire que de ce que la dernière fois qu'un dirigeant s'est présenté, c'était au micro de RMC, c'était dans Team Big Guy, c'était Campos qui était venu. Depuis, c'est silence radio. Et ça se compte en semaines. Donc on aimerait bien aussi être un peu rassuré là-dessus, sachant que les médias dans le Nord font un bilan catastrophique financier du club. Et en cas de descente, que ça soit sur un plan sportif, extra-sportif, ça serait une catastrophe pour la région du Nord.
C'est quoi, Pierre, reste avec nous là, faut qu'on fasse une petite pause, mais reste avec nous Pierre, on te reprend juste après ça, ne pars pas, voilà, on fait une petite respiration, on revient dans quelques instants. Supporters de Lille, on vous attend également, venez réagir à ce match nul de 2 qui a franchement un goût de défaite face à Guingamp ce soir. Lille, on le rappelle, qui est avant-dernier au classement ce soir avec ce match nul de but partout face à Guingamp et qui est à égalité de points avec 3 qui est 18e et pour l'instant barragiste. François, Ali, à tout de suite, non?
Ça va?
On vous attend 32-16, je t'agrandis.
RMC, le super football show, l'after foot. Tu te sens là?